Philippe Vandel.
Bonjour Jérôme Pierrat.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisateur. Votre actualité, c'est ce documentaire exceptionnel, Génération Kalash. C'est ce soir à 21h sur RMC Story. Jérôme Pierrat, c'est assez rare pour te signaler. En tout cas, moi, j'avais jamais vu. Vous faites une introduction à la caméra pour vous présenter.
Oui, alors ça, c'est
Jérôme Pierrat. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le crime organisé. Et en ce moment, je m'intéresse à un phénomène dont on parle quasiment toutes les semaines, voire tous les jours, aux quatre coins de la France. Ce sont les règlements de compte dans les quartiers sensibles qui ont pour motif le trafic de stupes.
Pourquoi vous présenter, vous mettre en scène comme ça ?
Alors, c'est une demande de la chaîne, parce que c'est marrant, chaque fois que je fais un doc sur une chaîne, j'ai le droit à la même introduction.
Bah, évidemment. Mais
parce que ça fait 20 ans que je travaille là-dessus et qu'ils veulent expliquer comment on a les contacts. Enfin, voilà, parce que comme on voit systématiquement les méchants dans ces documentaires-là, c'est pour expliquer un peu aux téléspectateurs qu'on sort pas de nulle part et que ça demande un travail de longue haleine. Voilà.
Combien de temps de tournage pour ce, en dehors de vos 20 ans de carrière, ce milieu du banditisme, parce que c'est comme ça qu'on a les contacts, c'est pas en arrivant le nez au vent la veille. Combien de temps de tournage pour ce doc?
Quelques, je sais pas, 6 mois. Mais en fait, oui, comme vous l'avez dit, c'est le bénéfice de 20 ans.
Non, mais 6 mois, vous dites ça comme si c'était rien. Il y a des gens qui font des sujets en 2 jours. Hein.
Oui, non, là, heureusement, on a un peu le temps de s'installer, mais il vaut mieux.
Alors, je l'avoue, je n'avais jamais vu un documentaire comme celui-ci. C'est produit par Studio Fact. Il y a des armes, il y a des vendeurs d'armes, il y a des tueurs à gages, il y a des punisseurs, vous nous direz ce que c'est. C'est aussi, on voit une sorte de drive-in de la drogue que vous avez pu filmer de l'intérieur et vous avez pu filmer des gens qui habituellement ne parlent pas. D'abord, qui est cette génération Kalash? Pourquoi ce sujet?
Parce que ça fait quand même quelques années que le banditisme s'est largement renouvelé en France, qu'il est issu des quartiers sensibles, on nous en parle assez régulièrement. Et puis, alors le sujet des règlements de compte, ça faisait quand même une petite dizaine d'années qu'on en parle à Marseille, mais ça s'est accéléré, ça s'est banalisé, ça s'est entre guillemets démocratisé, et la France s'est marseillisée, beaucoup de quartiers sensibles. Et donc c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre et de donner la parole à ceux qui parlent jamais derrière leur cagoule. Ouais.
Alors je vais donner ce chiffre, en France l'an passé, donc en 2020, 75 règlements de compte qui ont fait 108 victimes, principalement liées 90% au trafic de drogue. Le trafic de drogue en France, c'est 5 millions de personnes qui consomment de la drogue épisodiquement, dont 900 000 de manière quotidienne. Comment trouver de la drogue? C'est simple. Le ministère de l'Intérieur recense 400 points de drogue en France. Pour la seule ville de Marseille, il y en aurait 150. Et vous êtes allé voir le plus gros point de vente de la ville de Marseille, à la cité Bassins, 30 à 40 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Hasard de l'actualité, c'est à Bassins que le président Emmanuel Macron a fait sa visite il y a quelques jours et qui a prononcé un discours anti-drogue. Et là, il y a un dealer qui vous fait visiter, vous marchez avec lui dans la cité, il vous explique que c'est le premier... On a l'impression qu'il vous fait sa pub du drive-in.
Oui, c'est assez hallucinant parce qu'on a l'impression qu'on est face à un business légal surtout, parce qu'il est à ciel ouvert, il est au vu au sud de tout le monde, il y a des menus peints sur les murs, ils ont des...
Ils sont très bien peints en plus les menus, c'est très bien fait
pas mal,
par
là,
des
il
artistes.
M'a dit on a payé le meilleur graffeur de Marseille pour le faire, 500 euros la fresque, c'est pas dedans parce qu'on pouvait pas tout mettre. Mais,
ah non, ça c'est une bonne info.
Non, voilà. Et ils ont des sites sur les réseaux sociaux avec les horaires d'ouverture, tous les jours ils présentent la marchandise, enfin c'est surréaliste, c'est un supermarché.
Alors, le dealer vous explique son travail et vous explique également ses difficultés de commerçant.
C'est de plus en plus dur. Il y a des points de vente dans toutes les cités, dans tous les coins de rue. C'est devenu. Il y a plus de points de vente que des boulangeries.
Et ouais. C'est facile d'aller acheter.
C'est plus facile d'aller acheter du shit que d'aller acheter du pain. À 8 heures, c'est à part la boulangerie. Eh bien, les points de vente, ils ne ferment pas. C'est très très dur. Voilà. C'est très très dur. Il y a trop de concurrence. Oui, bien sûr qu'il y a trop de concurrence. Il y a des points de vente dans toutes les cités. À chaque coin de rue, il y a un point de vente.
Et vous faites une guerre commerciale. Là, le réseau, ici, vous n'avez pas peur de la concurrence avec toutes les...
On n'a peur de rien, on fait la guerre, nous. Hein. Lui qui vient, on fait la guerre, il n'y a pas de problème. Hein.
La guerre, on va y venir, c'est un drive. Quand les voitures sortent, on se demande, même si la police ne peut pas entrer à l'intérieur de la cité, pourquoi ils n'arrêtent pas les voitures? Parce que l'amende, vous le dites, c'est 200 euros. Pourquoi ils récupèrent?
Oui.
Ils ne repèrent pas les numéros des voitures,
oui,
ils arrêtent les consommateurs.
Il suffirait de se mettre à la sortie de la cité et vous cueillez tous les clients. Effectivement, il y a un défilé de voitures.
Pour quelle raison technique ne le font-ils pas? C'est pour acheter la paix sociale?
Oui, puis de toute façon, ça change malheureusement, contrairement à ce que déclare notre ministre de l'Intérieur, la fermeture des points de deal ne sert strictement à rien pour endiguer le trafic. Alors oui, ça peut rassurer la population 5 minutes, etc. Mais finalement, ça se réinstalle aussi rapidement que ça disparaît, ou ça se déplace un peu plus loin. Donc finalement, je crois que même la police n'est pas complètement dupe de la stratégie et se dit, bon, à quoi bon aller arrêter 10 types, gagner 1000 euros d'amende et dans une heure... il faudrait faire de la présence 24-24, 365 jours de l'année, c'est surréaliste.
Il y a presque de la présence 24-24, comme vous dites, c'est qu'il y a le commissariat qui est juste à côté, il est à portée de vue, mais les bandes le craignent moins que les bandes rivales.
Ah ben oui, c'est ce dont on s'aperçoit dans ces cités, c'est qu'aujourd'hui, le vrai ennemi, c'est le concurrent, le gang rival, et moins la police. Alors évidemment, ils sont pas contents de l'avoir arrivé, et il faut dire quand même que les peines, quand elles tombent à deux chiffres, hein, comme on dit chez les voyous, donc c'est pas rien. Mais effectivement, il y a une espèce, on est entre la provocation et quand même l'espèce de banalisation, c'est-à-dire que le mec montre l'hôtel de police qui est juste derrière le mur, ouais. C'est le plus gros des quartiers, c'est le fameux hôtel de police de la BAC Nord, et effectivement, on pourrait se dire que du dernier étage de la fenêtre, on voit quasiment le point de deal. Ouais.
Exactement. Alors, il y a un moment de télévision que je vais raconter. Un jour, dans la guerre des bandes, il y a une bande rivale qui est venue tirer à la Kalachnikov dans une supérette, un magasin d'alimentation. Il y avait des jeunes qui regardaient là un match de foot, ils ont tiré un peu à l'aveugle. 3 morts, 3 blessés. Et là, il y a un moment de télévision. C'est qu'il y a la mère d'un des petits qui était mort, qui se retrouve dans la cité, devant votre caméra et devant votre guide, le gars qui vous faisait la visite. Par hasard, le dealer demande à cette dame d'où elle vient. Elle vient de Salon de Provence. Écoutez la suite.
Je suis Salon.
Ah, je connais très bien Salon. Hein. Ça fait longtemps que vous habitez là-bas. Vous connaissez pas un petit jeune qui est mort?
Mon fils.
Quoi, madame? Pardonnez-moi, madame, putain. Aïe, madame, aïe, putain, la vie de ma mère. Aïe, ce voilà, pardon, madame. Putain. Aïe, madame. Oh, mon frère, viens. Oh, c'est ça, Daron. Lui qui est mort à l'alimentation. C'est un collègue, il est décédé ici. Je vous cherchais, moi, madame. Ça fait 2 ans, 3 ans, je vous cherchais. Oh. Voilà, putain. Voilà, vous m'avez fait pleurer, madame. Voilà. Vous m'avez fait pleurer, voilà. Je suis comme votre fils, moi, madame. Voilà, c'est quelqu'un de bien, votre fils, je vous jure.
On voit pas ses larmes parce qu'évidemment il est caché, il est cagoulé, mais il pleure.
C'était vraiment sincère, c'est-à-dire que c'était la surprise. Il y avait cette dame qui était venue avec une amie, qui avait effectivement pas le look du quartier. Hein. Et puis on se demandait ce qu'elle faisait là. Au bout d'un moment, la discussion s'est engagée avec lui, avec nous. Et puis voilà, surprise. Mais c'est venu comme une espèce de.
Mais ce qu'on comprend, et ce qui est complètement dingue dans ce moment de télévision, c'est que ce sont pas seulement des caïds, pardon de ce cliché, mais ils ont un cœur.
Oui, non, mais d'ailleurs, à un moment, même il y a une politique qui le dit, Nora Preciosi, qui est une élue des quartiers, le dit rapidement. Elle dit voilà, quand on les prend isolément, c'est des gamins, c'est des jeunes, ils sont gentils. C'est ça le drame de toute cette histoire.
Ils sont gentils, mais j'aurais pas qu'on reste sur ce mot parce qu'on va marquer une pause et vous allez voir qu'en même temps, il y a de vrais méchants. Ça même plus que ça, il a interviewé Jérôme Pira, de véritables tueurs à gages. On en parle juste après ça. Culture Média continue. Belle. En compagnie de Jérôme Pira, il signe ce documentaire exceptionnel, Génération Kalash. C'est ce soir à 21h sur RMC Story. Vous racontez très bien l'architecture des réseaux de vente de drogue. Alors en bas, il y a les vendeurs, les dealers. En haut, il y a le patron qui n'habite plus dans la cité. En tout cas, il habite dans les beaux quartiers, voire il habite à l'étranger. Et entre les deux, c'est notre sujet. Pour que le patron puisse imposer sa loi, il y a les guerriers, les flingueurs. Alors, grâce à vos contacts chez les voyous, Jérôme Pira, vous avez pu rencontrer un de ces flingueurs. Il est chargé de la sécurité du réseau de la Caillole, un autre quartier de Marseille. Faut dire comment il pose. Il est cagoulé, il vous répond. Il a des lunettes noires, il a des armes dans les mains. À côté de lui, un gros fusil à pompe. Sur la table, des billets de 50, de 100, de 200. C'est lui ou c'est vous qui avez fait cette mise en scène?
Non, alors c'est...
Vous arrivez comme ça, il y a des billets
oui,
sur la table.
C'est lui qui avait voulu nous faire plaisir.
Ah, voilà. C'est lui. Nous, il l'a fait pour la télé. Voilà. Ok, il s'est mis en scène.
Il a mis l'argent, alors les armes, c'était pour crédibiliser son témoignage, hein, c'était plus ça, et puis montrer ce qu'il utilisait, puisque justement il avait tout un discours autour de ça, et non pas voilà, à l'inverse de la Kalash, etc., etc. Mais c'est lui qui avait mis ce tas de billets, on lui avait rien demandé. Ouais. Il dit pourquoi t'as mis ça? Il dit bah parce que c'est mon argent, c'est mon quotidien, alors voilà, je te mets ça sur la table, c'était pour te montrer qu'on gagne beaucoup d'argent.
Ça s'appelle Génération Kalash, j'ai appris un truc sur la Kalashnikov, c'est dangereux, c'est le tir en rafale, expliquez.
Oui, alors c'est ça qui est difficile à maîtriser, il y a un spécialiste des armes dans le doc qui dit, voilà, le coup par coup, ça va, le tir en rafale, bah, ça se lève, une arme, c'est puissant, et donc ça part dans tous les sens, et c'est là que ça devient dangereux, ça porte à 1000 mètres.
Voilà, parce qu'ensuite, il y a des balles perdues. Oui. Et là, ça peut être dangereux. Alors, il y a beaucoup de règlements de compte, et il vous présente ce fournisseur d'armes, sa dernière acquisition, il ouvre une mallette capitonnée, et il vous dit, chez nous, on appelle ça des bijoux, c'est nos bébés, ça, dit-il. Et là, il vous explique la différence entre les voyous et les dealers.
Mais un jeune de quartier, tu sais, c'est que des branleurs à la base, hein. C'est pas des voyous, hein. C'est des dealers. Nous, on est des voyous. On les fait tartiner, ils travaillent, ils font ce qu'ils ont à faire. Par contre, quand ils voient ça en face de leur gueule, là, ils savent très bien que c'est la famille qui passe avec.
Ils vous donnent les prix des armes. En Albanie, une Kalachnikov coûte 90 euros. Pour la ramener en France, ça coûte entre 400 et 600 euros. Donc là encore, on voit qu'il a des problèmes de logistique. C'est là où c'est incroyable. On est dans le grand banditisme et en même temps, tout ça est normal. Et...
C'est un commerce pour eux, donc ils en parlent comme d'un métier. Hein. Ils se lèvent le matin. De toute façon, c'est des gens qui, dans la vraie vie, sont pas complètement marginalisés. Hein. Ils ont femme et enfants et donc ils vont faire leur métier. Alors, il y a celui qui ouvre le supermarché de la drogue et puis il y a celui qui s'occupe de rapporter des armes de l'étranger. Ils gagnent beaucoup moins d'argent que ceux qui vendent des stupes. Mais voilà, il a beaucoup de problèmes de logistique, d'approvisionnement, de saisie.
On va parler des tueurs, mais vous avez aussi baptisé une certaine profession. Vous les avez appelés les punisseurs. En quelques mots, qui sont les punisseurs ?
Ce sont des gens qui ne veulent pas tuer, mais qui sont payés pour évidemment punir, comme leur nom l'indique. Et c'est-à-dire qu'en gros, ils tirent dans les jambes. On appelle ça de la jambisation. C'est-à-dire que vous devez de l'argent à notre dealer. On vient vous punir, on vous tire dans les genoux, dans les mains. Ça vous permet quand même de rembourser en cas de.
Mais là où c'est incroyable, on a l'impression d'être avec des patrons de PME, c'est que le punisseur ne fait pas partie du réseau. On va l'engager à l'extérieur comme prestataire de service. Écoutez ce punisseur qui explique son métier.
Écoute, le métier à nous, c'est tout simple, c'est un concept. Nous, on s'en fout de ce qui se passe dans les quartiers, tout ça ne regarde pas à nous. Ça veut dire que celui-là a baisé celui-là, nous, on s'en fout totalement. Nous, c'est simple, on règle les problèmes que d'autres personnes ne peuvent pas régler. C'est-à-dire, en clair, nous, on remplit des contrats. Ce que beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le produit est très dur à vendre aujourd'hui. Et les grossistes n'ont pas d'autre choix que de donner le produit à crédit. Et ce qui dit crédit, dit beaucoup carotte. Ça veut dire que les personnes qui prennent du produit à crédit se retrouvent vers un moment à ne plus pouvoir payer leur produit. Et c'est là où nous, on rentre en fonction.
Ça va pas jusqu'aux mœurs, vous l'avez dit, ça s'appelle la jambisation. Leur technique, c'est laquelle ?
Oh bah, ils vous tirent dans les genoux, dans les fesses, dans les tibias, voilà, pour vous blesser durablement, vous handicaper surtout, parce que ça a titre d'exemple dans le quartier. On va vous voir boiter pendant de longues années et ça va refroidir les ardeurs de ceux qui aimeraient vous carotter, comme on dit chez eux.
Alors, au-delà des nettoyeurs, au-delà des punisseurs, il y a aussi les nettoyeurs qui, là, sont de vrais tueurs à gages quand vraiment une bande veut éliminer quelqu'un de la bande d'en face. Vous avez recueilli le témoignage de l'un d'entre eux, d'un nettoyeur. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de ne pas passer l'extrait. D'abord, parce que ça peut vraiment, vraiment choquer. Ensuite, il parle pendant 3 ou 4 minutes. C'est très, très fort. Je ne sais même pas comment choisir un extrait plutôt qu'un autre. Ses propos sont incroyable. C'est la dureté, la froideur avec laquelle il vous raconte ça. Que vous dit-il ? Combien est-il payé pour tuer quelqu'un qu'il ne connaît pas ?
C'est assez glaçant. Bon, il est payé entre 50 000 et 60 000 euros. Alors, il parle de points. Lui, il dit entre 50 et 60 points. Et puis, pour le pilote de la moto, parce que souvent, il travaille en deux roues, c'est 15 000 euros. En gros, 15 000 euros, 20 000 euros. Voilà. Donc, oui, il en parle très, très froidement.
Ça, c'est le prix de base. Et ça peut monter. Parce que ça, c'est quand on est à moto et que la personne est en voiture, qu'elle ne peut pas échapper à sa voiture, puisqu'il est au volant. Mais ensuite, les prix peuvent monter.
Oui, c'est la configuration la plus simple. Après, si le type, il faut aller le tuer dans un environnement plus compliqué, si le type est aguerri, il le dit, si c'est un voyou aguerri qui se méfie lui-même, qui est pris dans une spirale de règlement de compte, il va évidemment être plus dur à faire, comme ils disent entre guillemets. Donc voilà, donc après, on n'est pas entré dans les détails, mais il y en a qui utilisent des balises GPS qu'on colle sous les voitures pour suivre les cibles, etc. Enfin, ça c'est très sophistiqué et effectivement, là, ça coûte beaucoup plus cher.
Et vous lui demandez s'il lui arrive de rater son coup, donc de ne pas arriver à tuer sa cible, et là, il vous répond cette phrase glaçante, il dit « Oui, parfois on se loupe, c'est la vie ».
Oui, c'est la vie pour le gars qui l'a loupé, oui, c'est pas la mort. Effectivement, oui. Et non, oui.
Jérôme Pira, tous ces gens sont masqués. Vous allez voir un armurier, vous montrez des vidéos à un armurier, un grand spécialiste des effets spéciaux du cinéma, s'il n'y a pas d'armes factices. Comme parfois ça peut arriver, comme on a vu ça à Dijon avec des gens de la communauté tchétchène où certaines armes étaient factices. Beaucoup de interlocuteurs sont masqués, les voix ont été transformées. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'avoir des témoignages factices, que les gens vous disent les choses pour la caméra, pour se faire flamber eux-mêmes ?
Non, parce que ça fait... Alors, effectivement, on pourrait. Hein. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais des films, plus de 25 ans que je travaille là-dessus. Donc, les gens que je vais voir, moi, je sais qui ils sont. C'est recoupé comme info. C'est-à-dire que c'est pas un type qui me le présente. C'est... Bon, ils sont connus dans leur milieu. Donc, effectivement, c'est compliqué de mettre leur CV à la télé. Mais c'est pour ça qu'ils posent souvent avec des armes, qui sont des armes interdites, etc., pour bien montrer qu'ils sont dans des circuits totalement illégaux. Et puis après, effectivement, par exemple, le tueur à gages, c'est le seul qui pose sans armes, sans rien du tout. Lui, bah, je connais son pédigré, puisqu'il a été aux assises pour une affaire comme ça. Il a eu un non-lieu. Heureusement pour lui, malheureusement pour la société. Ouais. Mais voilà, donc je connais son pédigré, je sais moi qui sont ces gens. Alors c'est compliqué, effectivement, il faut me croire sur parole, il faut les croire sur parole.
Alors, je peux vous dire, quand on entend ce qu'il dit dans votre documentaire qui passe ce soir, il n'y a pas de non-lieu. Ça s'appelle Génération Kalash, c'est à 21h sur RMC Story, c'est produit par Studio Fact et c'est signé par vous, Jérôme Pira. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média.
Merci.